Bonjour Nicolas, ça fait plaisir de t'avoir avec moi pour ce petit épisode qui est le quatrième d'une série sur le sujet du design fiction, du travail de la vision, du travail des imaginaires, et surtout pour venir soutenir l'intention qui est que si on ne travaille pas justement sur ces sujets, on s'empêche beaucoup de choses dans le milieu d'entreprise et surtout en tant que direction d'entreprise. C'est des sujets qui sont prépondérants et je voulais vraiment avoir ta participation et ton point de vue parce que ça me paraît très riche et nourricier. Voilà, je veux bien que tu nous fasses une petite présentation rapide de toi et de tes activités, comme ça donne un peu de contexte et puis après derrière je te poserai plein de questions.
Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde. Peut-être en deux mots parce que j'ai plusieurs casquettes, mais là, une de mes activités c'est celle d'être cofondateur de Near Future Laboratory qui travaille à des projets de design fiction depuis 2006, 2007, depuis un long moment avec mes collègues Fabien Girardin, Nick Foster, Julian Bicker. La structure a évolué, elle a suivi différentes phases, plutôt votre collectif, moi l'entreprise, et puis là, elle est encore en train d'évoluer. Mais globalement, dans ce contexte-là, on a développé cette notion de design fiction sur laquelle on reviendra en multipliant des projets, autoporté par nous-mêmes, soit pour des entreprises, des grands groupes, des petites structures, des structures publiques, et puis de développer aussi des activités un peu plus exploratoires sur des thématiques qui nous intéressent. Moi, par exemple, au travers de certains ouvrages, certains livres sur lesquels on pourra parler. Donc ça, c'est le côté activité, on pourrait dire activité monde de l'entreprise. Et puis j'ai une autre casquette qui est plus académique, qui est celle d'être professeur dans une école d'art et design à Genève, qui est la HED, HED. Je passe une grande partie de mon temps à enseigner, en particulier au sein d'un master de Media Interaction Design, mais aussi plus largement à mener des projets de recherche, à faire des enseignements plutôt au niveau doctoral sur des thématiques qui sont l'approche en fait ce que je suis d'un point de vue académique, c'est-à-dire un anthropologue, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à la manière dont on vit dans le monde, une dimension culturelle, en particulier à travers deux aspects qui m'intéressent, qui sont un, les mutations liées aux technologies numériques, et puis deux, la crise ou les crises environnementales. Et donc, dans ce cadre-là, je mène différents types de projets, d'enquêtes de terrain sur les boutiques de réparation de smartphones, l'artificialisation de l'environnement avec l'Anthropocène, les Alpes contemporaines et leurs mutations. Et souvent, dans ces projets, il y a une dimension ethnographique, c'est-à-dire décrire le monde d'aujourd'hui et ses pratiques sociales et culturelles. Et puis, il y a une pratique, comme je suis dans une école d'art et design, une pratique aussi spéculative qui rejoint la dimension design fiction avec une future laboratory qui consiste à imaginer les futurs possibles à travers, en fait, sur la base de ces enquêtes ethnographiques. Donc ça c'est pas le monde de l'entreprise, c'est plutôt de produire des réflexions, des ouvrages, toute une série de connaissances, de savoirs. Maintenant, la porosité entre ce qui est monde de l'entreprise ou ce qui est académique, elle est pas si fine, parce qu'avec une future laboratory, il peut arriver aussi qu'on produise des activités de recherche, de production de savoir-faire, ou de connaissances. J'ai notamment fait un ouvrage qui s'appelle Exercice d'observation, qui est sur la question de comment on apprend à observer, à prêter attention au monde, si on veut le décrire, parce que c'est si on est dans le monde académique, mais si on est aussi designer, architecte, artiste, ingénieur, et qu'on veut transformer ce monde-là. Donc j'essaie de trouver un équilibre, en fait, pour résumer, entre une dimension de réflexivité et de transmission, et puis une dimension, évidemment, plus pratique, d'aider, de nourrir, d'alimenter des clients sur des réflexions sur comment le monde est en train d'évoluer.
Est-ce que c'est la casquette de recherche et la casquette exploratoire qui t'a amené à bosser sur le secteur de l'entreprise, ou est-ce que c'est le fait de bosser sur le secteur de l'entreprise qui t'a amené à faire de la recherche? Parce que moi, souvent, je vois ce côté de recherche-action un peu. Est-ce que c'était l'action au départ qui disait il y a besoin en fait de capitaliser ça et d'en faire quelque chose de plutôt académique, ou est-ce que c'était l'académique qui avait besoin d'avoir du terrain pour pouvoir avoir plus de matière concrète?
Ouais, c'est un peu difficile à dire, parce que dès mes études, dès notamment quand j'étais en master, pour payer mes études, je travaillais dans le monde de l'entreprise, et pour moi c'était indissociable, en fait, le fait de, travailler sur des considérations un peu académiques et puis d'avoir un pied sur le terrain, et notamment le premier terrain pour moi, c'était pendant une dizaine d'années des entreprises du monde du jeu vidéo en fait, hein, il consistait à les aider sur comprendre l'expérience utilisateur, faire des playtests, comprendre ce que c'est que d'utiliser les usages des technologies. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir jamais dissocié les deux, en fait, parce que pendant que j'avais des cours sur comment on enquête sur les technologies et leurs usages, bah, il fallait aussi utiliser ça dans un contexte plus appliqué. Maintenant, je pense que c'est quand même d'abord peut-être la dimension un peu académique, parce qu'en fait, si je devais trouver un peu de racine, puisque c'est avant de travailler, c'est là où j'étais, et puis en devant essayer de réfléchir à comment je pouvais appliquer ça dans un contexte d'organisation, ben je me suis dit, ben comment on adapte ces outils, où on part des besoins en fait de ces organisations-là, mais de constituer un peu une évolution, une coévolution en fait de considérations pratiques et plus voilà, plus abstraites, plus réflexives, c'est venu vraiment main dans la main, quoi.
Et en ce qui concerne le passé, présent, futur, est-ce que tu as commencé à travailler directement sur ces trois dimensions-là, ou est-ce qu'au départ, tu parlais de tes études sur la partie anthropologique qui va étudier le passé pour comprendre le présent, et puis après, derrière le fait de travailler avec les entreprises, du coup, tu es vraiment dans le travail sur le présent, même le jeu vidéo qui sont sur l'usage du présent. Est-ce que rapidement, tu en es venu à avoir envie de travailler sur le futur et la partie plus spéculative? Ou est-ce que c'était dès le départ?
Bah, en fait, la question du futur, elle vient à différents moments. Elle vient aussi à travers différentes formes d'intérêt, plutôt personnel. Enfin, c'est un peu banal, hein, d'ado qui lit de la science-fiction, qui fait du jeu de rôle, enfin, et qui s'intéresse à la question spéculative à travers la lecture d'essais ou sur la prospective, plus par curiosité personnelle. Mais le fait de me dire, tiens, je pourrais faire ce genre de choses, je pourrais travailler sur ces considérations-là, je dirais que c'est venu plutôt à la fois parce qu'on me l'a demandé, à un moment donné, au-delà de faire des playtests, de traiter de considérations d'expérience utilisateur ou des enjeux plus anthropologiques sur les usages des technologies, j'ai travaillé pour une entreprise qui m'a dit, bah, ce serait bien que tu nous aides aussi à réfléchir, à anticiper des futurs possibles. Voilà, quels sont les outils à mettre en place. Et puis, il y a aussi la dimension que quand j'ai fait une thèse de doctorat à l'EPFL à Lausanne, à peu près au même moment, hein, 2003-2007, sur des questions dans une discipline qui s'appelle l'interaction humain-machine, hein, IHM, dans lequel c'est une discipline dans laquelle on étudie les usages des technologies, mais aussi on réfléchit à leur évolution, leur trajectoire. Donc, il y avait voilà cette espèce de mouvement conjoint de je suis dans le contexte d'entreprise qui me demande de travailler sur le futur, mais aussi dans une discipline académique dans laquelle il faut aussi aider, réfléchir, alimenter des gens qui vont concevoir les interfaces de demain, pour moi-même les concevoir d'ailleurs, ce que je fais plus maintenant, mais ce que j'ai fait à l'époque. Et du coup, ben, cet enjeu de comment on développe une boîte à outils pour penser les trajectoires, des futurs possibles, des scénarios, voilà, elle s'est construite à partir de cette période-là, à la fois par la demande, par le contexte dans lequel j'étais, et puis par le fait d'essayer des outils, de les mettre en place, et c'est ce qu'on a fait avec mes collègues autour du design fiction. Ouais.
Et ça s'est passé comment, ces premières étapes, quand tu as commencé à travailler sur le futur? Je te demande ça parce que dans la discussion qu'on a avec Fabien, il utilisait vraiment le terme « pensée future ». Et du coup, un bout de notre conversation, c'était sur le fait que, mine de rien, pour beaucoup d'humains, c'est pas du tout une habitude de le faire. Et donc, du coup, on peut pas juste demander à des humains autour d'une table lors d'un workshop, à partir de maintenant, on va se projeter dans l'avenir, vous allez juste à fermer les yeux, puis vous me dites ce que vous voyez. Il y a tout un processus pour arriver à rentrer là-dedans. Il y a des créations après avec les outils et les méthodes que vous utilisez ou qu'on peut utiliser plus en général. Mais moi, ce qui me questionne, ou je suis curieux, c'est de me dire, toi-même, quand tu t'es mis là-dedans, est-ce que, par les lectures de SF que tu as fait avant ou par ta curiosité, c'était assez facile pour toi de te mettre à penser futur, ou est-ce que tu as dû toi-même utiliser certains outils, ou tu te rappelles comment ça s'est passé?
Je dirais que c'est un double mouvement entre des lectures plus abstraites, intellectuelles, théoriques, et puis le fait de faire, en fait, créer des manières de prototyper des scénarios. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est des choses que j'ai lu ou j'ai fait plutôt ado, c'est-à-dire par exemple d'imaginer voilà, de créer des jeux de rôle, des scénarios de jeux de rôle, qui étaient une manière de surtout situé dans l'avenir, était une manière de, bah, de le faire, en fait, en créant des objets fictifs ou des scénarios fictifs qui permettent de mettre en scène des futurs possibles. Mais à l'époque, je me disais pas du tout que ça pourrait me servir plus tard. Et puis, à la même période aussi, c'était de lire des choses qui traînaient dans la bibliothèque et à la maison, de textes d'auteurs comme Gaston Berger, ou comme de Jovenel, en fait, qui étaient un peu des auteurs de la prospective à la française. Hein. La prospective, c'est tout ce champ plutôt stratégique, un domaine qui s'intéresse à comment anticiper des scénarios possibles demain, des futurs possibles, pour réagir aujourd'hui, avoir une attitude proactive sur le futur. Et donc, d'avoir lu ces choses-là à peu près à la même époque où je baignais un peu dans le monde culture SF, jeu dans lequel on créait des objets fictifs avec des amis, c'est-à-dire faire des fanzines qui mettaient des scénarios sur demain, à propos de demain, de créer des objets qui mettent en scène qu'on est dans un monde futur. Je pense que ça a fait un peu une espèce de terreau qui, le jour où on m'a dit « Ouais, ce serait bien que tu travailles sur... je sais pas, le futur du divertissement dans le monde du salon à la maison, je me suis naturellement tourné vers ces choses-là et naturellement tourné aussi vers là où j'étais à l'époque, qui était les IHM ou le design d'interaction, dans lequel il y avait toute une culture de créer, de prototyper en fait des objets qui mettent en scène les futurs possibles. Hein, dans ce domaine des IHM, il y avait des approches par scénario, il y avait des approches dans lesquelles on créait des prototypes physiques. Là, c'est la fin des années 90, début des années 2000. Et du coup, bah, avec d'autres, en fait, hein, avec les collègues des Future Laboratory, bah, en discutant des manières de le faire, on essaie de trouver un équilibre entre ce qu'on faisait un peu d'un point de vue académique, mais aussi des formes plus proches des cultures populaires. Hein, c'est là où la question du jeu de rôle, la question d'utiliser des objets du quotidien d'une grande banalité, on l'a transposé en fait dans l'idée de se dire on peut prendre un manuel, un journal, un carnet de terrain, je sais pas, un catalogue, et utiliser ces formes-là pour représenter des scénarios, des possibilités. Et il y avait un côté donc pop culture même amusant en fait de détournement des objets du quotidien en se disant on va utiliser ça pour représenter des scénarios. Alors au début, il y avait un côté presque, pas ludique, mais un côté un peu léger en fait. On pourrait dire de se dire, mais on peut faire des objets, je sais pas, de représenter ce que c'est que une console de demain en faisant un brevet fictif, représenter, je sais pas, les interactions avec les gestes que l'on pourrait faire demain avec des prototypes de lunettes de réalité augmentée ou de reconnaissance faciale, avec un petit film, avec des prototypes vraiment hyper basiques. Et donc c'est ça en fait qu'on c'était une manière de mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire à aller main dans la main entre eux. Il y a un côté on prototype, on s'amuse littéralement à créer des objets fictifs, et en même temps de lire des textes plus théoriques de gens qui se sont déjà posé ces questions d'une certaine manière dans des champs comme celui de la prospective, du design, aussi de l'anthropologie, des pratiques artistiques, et puis d'essayer de faire une synthèse un peu créative de tout ça. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on raconte dans le manuel de design fiction après, mais pour moi, c'est ça va vraiment ensemble, le fait de bien le faire et le fait de réfléchir au faire qui aide à construire avec le temps. Puis peut-être pour répondre à ta question sur comment on a construit ces choses-là, c'est en le faisant nous-mêmes et en le rendant visible, il y a ensuite des gens qui nous ont fait confiance en nous disant, vous pourriez faire ça pour nous. Donc, on va essayer d'appliquer ces démarches de manière un peu plus, aboutie dans un contexte d'entreprise, d'organisation. Et puis, de fil en aiguille, d'affiner, en fait, ces démarches en créant des objets fictifs qui a un intérêt pour les organisations avec lesquelles on travaille, qui n'est pas un coût démesuré et qu'on passe pas 5 ans dessus, qu'elle soit pertinente aussi pour pouvoir prendre des décisions plus d'ordre stratégique, c'est-à-dire donner des priorités, hiérarchiser des besoins, qu'il s'agisse pour les politiques d'innovation ou d'investissement dans les choix technologiques. Et donc là, ça a fait évoluer en fait cette démarche design fiction, vers des choses sans doute plus appliquées, terre à terre, qui sur lesquelles on peut garder évidemment un certain degré d'originalité ou de singularité, mais qui doit rentrer dans le contexte des clients avec lesquels on travaille.
Mais c'est ce que j'allais te demander, du coup, ça me fait un sens de transition, c'est là maintenant l'applicatif de la démarche de design fiction que vous pouvez avoir, enfin, ou que toi tu peux avoir sur tes projets aussi. En gros, ça va venir chercher quoi? C'est quoi la promesse en sortie ou l'attente ou le besoin client quand tu bosses avec des entreprises?
Peut-être pour y répondre, c'est une définition hein, du terme design fiction. Pour nous, c'est une pratique en fait qui consiste à créer des prototypes qui sont suffisamment tangibles et suffisamment évocateurs de futurs possibles pour aider en fait à découvrir des enjeux, représenter les conséquences de certains changements, qu'ils soient technologiques, sociétaux, environnementaux, politiques. Et du coup, quand on a dit ça, les besoins clients, en fait, c'est en général. Alors, si on est dans le monde plutôt de l'entreprise, ça va être des gens qui sont plutôt en R&D, un département d'innovation ou peut-être marketing stratégique, se posent la question de changements qui vont arriver, qui sont en train d'arriver à travers, en particulier des technologies, mais pas que, et qui se demandent ce que ça va signifier par rapport à leur offre de produits ou de services, à leur type de client en fait, hein, d'utilisateurs finaux. Ça pose question aussi en termes plutôt d'investir des nouveaux domaines, qu'il s'agisse de technologies qu'ils ont pas encore abordées, et donc de définir, de hiérarchiser des priorités, d'identifier comment ça pourrait, ces changements-là pourraient affecter à leur processus en fait d'innovation. En termes de durée ou en termes de penser ce que ça pourrait être au niveau des, je sais pas, comment prototyper en fait avec ces outils, comment ça pourrait raccourcir leur cycle d'innovation. Donc ça, c'est plutôt entreprise privée. Du côté des structures publiques, parce qu'on travaille de plus en plus sur les structures publiques, il y a soit le cas des musées qui s'intéressent à ce qu'on mette en scène des manières de représenter les changements, en particulier technologiques, dont on a travaillé avec des organisations qui veulent matérialiser comment le véhicule autonome ou les technologies de capteurs ou d'intelligence artificielle changent les usages. Ben là, il s'agit de faire réfléchir le public des musées ce que ça pourrait amener dans le quotidien en fait des gens. Mmh. Et puis dans le cadre des organisations publiques plutôt qui sont pas des musées mais qui sont plutôt des collectivités, qui sont plutôt des municipalités, des structures étatiques, il s'agit de les aider à réfléchir à leur stratégie, au type de service ou au type de service public qu'ils ou elles vont mettre en place dans le futur. Et là, il s'agit de provoquer ou de stimuler une réflexion sur des risques nouveaux qui peuvent apparaître, des opportunités pertinentes, des angles morts qu'ils n'ont pas forcément vus pour les aider à réagir. Et donc, derrière ce que je dis là, un point qui, je pense, est important, c'est que les projets de design fiction qu'on met en place, on crée des objets fictifs, mais c'est jamais une finalité. Enfin, c'est jamais la finalité en fait. On pourrait dire, c'est un espèce d'objet intermédiaire qui sert à faire prendre des décisions en fait, ou à alimenter de réflexion sur les conséquences de ces décisions. Alors évidemment, c'est pas les mêmes types de décisions quand on est dans le privé ou dans le public, quand on est une entreprise ou une municipalité, mais c'est de positionner pour nous les décisions comme un outil finalement intellectuel de la réflexion, de la prise de décision, la prise de choix, d'hierarchiser les priorités, et donc de faire participer les personnes avec lesquelles on travaille à la création des décisions ou in fine en fait à la réaction que ça peut produire.
Et est-ce que tu as déjà travaillé, utilisé la démarche de design fiction pour travailler sur le sujet de la vision justement ou de la même vision ou raison d'être d'une entreprise ou potentiellement aussi pour travailler sur des, non pas là du coup sur la création de nouveaux services publics mais clairement sur les politiques publiques, sur la structuration des politiques publiques.
En fait, je dirais que c'est souvent dans la plupart des types de projets qu'on mène. On va pas dissocier les deux en fait, hein, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit dans une organisation publique. Il y a toujours un moment où, même si on travaille sur quelque chose d'extrêmement terre à terre, imaginez des nouveaux services publics ou des fonctionnalités d'une app par une organisation, ça amène le fait de travailler avec ces projets de design fiction, ça amène une réflexion plus large qui va devoir faire considérer en fait le rôle de l'organisation là derrière. Est-ce qu'il s'agit hein, de juste de faire des fonctions, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités ou de se reposer la question de bah, quel est le rôle à venir demain. Et je pense que ça, c'est lié à la dimension prospective, au fait qu'on travaille dans des futurs à 3, 5, 7, 10 ans, qui fait que l'organisation, qu'elle soit publique ou privée, peut pas... nous, on les pousse à réfléchir à autre chose que le niveau des fonctionnalités et des services, et à se dire... Mais comment vous serez demain? Est-ce que vous aurez, je sais pas, le même mode d'organisation? Est-ce que le monde sera exactement le même, au contraire très différent dans la façon de faire des choix, de la stratégie générale? Alors maintenant, il y a des projets qui sont voilà plus ambitieux et aussi peut-être plus tournés vers cet aspect stratégie plus générale, et d'autres qui sont beaucoup plus terre à terre. Mais je dirais que c'est dur de les distinguer, parce que ce qu'on essaye de faire à travers les projets de design fiction, c'est pas seulement répondre à la demande du client extrêmement bornée, mais c'est aussi montrer des angles morts. Par exemple, si je prends un cas précis, là, on avait fait un projet avec le département de la mobilité du canton de Genève sur le thème du véhicule autonome. Alors, on nous avait demandé de créer un objet fictif qui permet de montrer comment le véhicule autonome pourrait amener des changements qui obligent à repenser ce que c'est que d'organiser la voirie, ce que c'est que d'organiser les rues dans le canton de Genève. Et on a produit voilà une carte du futur pour le véhicule autonome qui permet de savoir où les prendre, où est-ce qu'on peut rouler avec, comment on dit à un véhicule de nous emmener d'un point à un autre. Mais on aurait pu s'arrêter là. Mais dedans, il nous semblait important d'amener des considérations plus larges, notamment la considération énergétique. Le fait que si on veut des véhicules autonomes, il va falloir en faire pousser des centrales nucléaires parce que ça va consommer l'électricité. Je suis pas en faveur de ça, nécessairement, mais c'est plutôt de mettre en lumière, en fait, les prolongements, les conséquences, les enjeux qui sont connexes, qui sont liés, par exemple, à l'énergie, mais on a aussi amené des considérations liées à l'emploi dedans. Et donc, le fait de produire cet objet avec des enjeux qu'on ne nous avait, en fait, pas vraiment demandé, était pour nous une manière de montrer qu'on ne peut pas prendre un changement, par exemple, un changement technologique, ce serait pareil avec un changement environnemental, sociologique. On peut pas prendre ça de manière dissociée de tout un ensemble d'autres considérations qui vient bousculer en fait les politiques publiques au sens large, en l'occurrence dans ce cas-là. Et ça, il y a ces différents ingrédients et différents types de choses qu'on peut doser dans les projets de design fiction qui amènent à montrer le caractère systémique ou beaucoup plus large en fait de la question telle qu'elle nous l'est posée. C'est pas pour montrer la nuance, pour montrer la pile ailleurs, mais c'est pour montrer que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'est la demande initiale, et qu'il s'agit aussi de reconsidérer comment, dans le futur, si le changement que l'on évoque est souhaitable, au contraire, on ne souhaite pas l'aborder, il va falloir tenir compte de tous ces paramètres et toutes les dimensions qui le concernent.
Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que contrairement à certaines approches de conseils ou d'accompagnement, notamment sur les sujets des transitions des entreprises ou des transformations des entreprises par rapport aux enjeux écologiques et tout le reste, il y a souvent des approches qui vont rester sur une entrée assez culpabilisante, dans le sens où on va venir vous aider pour que vous fassiez votre transition, parce qu'en fait, dans l'état actuel de votre entreprise, elle n'est pas vraiment adaptée au monde de demain, elle n'est pas vraiment bonne pour son écosystème, donc il faut venir changer des choses. Et du coup, je trouve toujours que c'est quelque chose qui est assez violent, au final, pour une direction d'entreprise d'entendre ça. Déjà, ils en sont potentiellement conscients, déjà. Ouais. Et en plus, on vient leur ajouter une couche en leur disant que ce qu'ils font, c'est pas bien. Et en plus, on vient leur dire qu'ils n'arriveront pas à faire la transition tout seuls et qu'il faut qu'ils se fassent aider. C'est comme si le médecin, il venait carrément sonner à ta porte en te disant « arrête de faire n'importe quoi, il va falloir que je reste avec toi un petit moment pour que je te soigne. » Donc, il y a un côté assez violent. Mais le fait là de rentrer par le travail sur le futur, qui amène du coup forcément des réflexions qui sont plus larges si vous le rendez possible à l'intérieur des contenus que vous fournissez, ça remet pas l'entreprise en question, dans le sens c'est elle qui est néfaste par rapport au monde, mais c'est plus regarder le monde, comment il va potentiellement bouger. Si ça bouge comme ça, alors il y a des risques que vous soyez pas adapté à ça, et donc du coup on n'est plus en train de la juger, on est plutôt en train de lui présenter une opportunité de changer maintenant pour pouvoir être adapté au monde de demain. Donc, je trouve que c'est assez intéressant comme, C'est intéressant comme entrée quand on a envie de venir un petit peu proposer des changements à des directions d'entreprise ou même à des institutions.
Mais c'est aussi lié à un autre aspect, c'est que, pour le dire autrement, nous, on ne sait rien de ce qu'il faut faire. On ne peut pas se mettre à la place de l'expertise de l'organisation avec laquelle on travaille. C'est plutôt, on peut amener des éléments qui aident à comprendre comment le contexte est mouvant et en train de changer. Et comment ça peut donner soit des prises à l'organisation, soit au contraire venir la bousculer et sans juger. Enfin, je pense que c'est aussi les gens avec lesquels on travaille qui ont cet intérêt, cette intelligence et qui saisissent bien, qui vont pas venir chercher des réponses toutes faites, hein, mais que c'est voilà, en fait au fond c'est tout ça, c'est des outils intellectuels qui servent à prendre en compte de changements en cours d'avènement, certains sur lesquels les gens qui ont travaillé ont prise de manière assez forte ou assez faible. Hein. Ça peut être quand on a une organisation publique, il y a des choses sur lesquelles on est sûr de pouvoir intervenir et d'autres dans lesquelles c'est beaucoup plus difficile. Hein. Les drones de livraison, les nouveaux objets techniques qu'on trouve comme les véhicules autonomes dans la ville. Il y a quand même une part de pouvoir de pouvoir réguler la voirie, les données qui sont produites par la municipalité. Mais par contre, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas du ressort de l'organisation. Et du coup, c'est montrer, en fait, à travers les institutions, ce sur quoi il peut y avoir des prises, sur quoi les personnes à qui on travaille peuvent prendre appui. Et ça, personne ne peut donner une réponse toute faite à ça. C'est peut-être qu'il y a des structures de conseil qui donnent une réponse toute faite. Mais nous, on n'est pas convaincus de cela, plutôt de laisser une part d'ouverture quand même dans les incertitudes qui peuvent se produire, en respectant aussi le fait que tout ça prend un temps phénoménal pour les organisations. Enfin, on est conscient que c'est pas en faisant des projets de discussion sur une année que les choses vont évoluer. Et c'est d'ailleurs un peu le drame, parce que les enjeux, notamment par rapport aux crises environnementales multiples, impliquent une réaction rapide, mais on sait bien que la vitesse de changement des organisations, elle est ce qu'elle est.
Et justement, dans la continuité de ce que tu disais, tu as un projet qui rentre peut-être par on a envie de voir comment notre cible clientèle ou le marché ou nos produits ou services vont devoir évoluer, vous allez créer ces objets qui vont créer des débats, des discussions, des ouvertures. Dans ces ouvertures-là, quand vous voyez que des fois, il y a justement des petits déclics ou des petits rebonds, que ça soit sur, tu vois, par exemple, j'avais le sujet de la vision, donc c'est un peu le sujet du podcast. Si une direction, par exemple, commence à sentir que, il n'y a pas vraiment une vision d'entreprise qui a été positionnée ou qu'elle serait vraiment à retravailler, dans le sens où, on était une entreprise qui était basée sur le fait d'avoir un développement économique par rapport à ce qu'on vend, mais en fait, ça suffit plus. Parce qu'on vient bien comprendre qu'en fait notre entreprise, si on continue comme ça, elle sera pas intégrée dans le marché de demain ou dans les considérations environnementales ou dans tout le reste. Comment est-ce que vous arrivez à permettre une continuité à cette pensée pour les directions, pour qu'ils puissent réussir à venir écrire cette vision ou à venir la fixer? Est-ce que c'est votre rôle ou est-ce que vous prenez pas ce rôle-là? C'est par curiosité.
C'est assez rare qu'on prenne ce rôle-là, en fait, parce qu'on est souvent sollicité plutôt sur la dimension, production de design fiction et ensuite un petit peu de réaction. Mais la continuité, soit elle a lieu au sein de l'organisation elle-même, par d'autres personnes, soit par d'autres consultants aussi. Hein. Ça peut être, par exemple, qu'on a hiérarchisé des priorités sur des fonctionnalités possibles d'un service. Il peut y avoir des ateliers avec d'autres consultants sur la génération de modèles d'affaires ou du prototypage plutôt user experience design plus classique. Mais je dirais que ça a quand même pu arriver par moment, notamment par des organisations avec lesquelles on a travaillé sur des temporalités un peu plus longues, dans lequel on voit, déjà on nous sollicite, donc on voit un peu ce qui a évolué ou pas de du projet antérieur. On voit également que y a parfois une persistance de d'enjeux qui reviennent et sur lequel il y a un besoin plus concret. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail pour les entreprises privées, parce qu'évidemment c'est pas des choses dont on peut parler facilement, mais pour les clients sur lesquels il y a eu un travail sur une temporalité plus longue, on pouvais sentir que typiquement le type de questions qui se posaient à travers des projets d'identification était très très large au début sur des considérations on nous posait des questions sur des choses extrêmement larges, c'est quasiment de l'ordre de la science-fiction. Et puis plus on avançait avec des projets successifs, plus les questions qui se posaient étaient non pas étroites en sens étroitesse d'esprit, mais plutôt vraiment concrètement appliquées à un des objets de l'organisation dans lequel il s'agissait de créer des fictions sur comment cet objet-là va jouer un rôle, électroménager, enfin dans la sphère électroménagère, dans la sphère domestique. Et alors qu'au début, on partait plutôt sur les gestes numériques. Et du coup, ça forçait. On voyait que ça forçait à faire réfléchir, à se rapprocher des produits existants, d'imaginer comment ces produits pourraient devenir des services. Que si on pense des produits comme des services, il faut leur penser peut-être leur modèle d'affaires de manière différente, par abonnement. Donc ça venait complètement chambouler la façon de penser l'organisation. Là, je prends des exemples qui sont finalement, c'est peut-être pas très étonnant, mais c'est des choses sur lesquelles on a pu travailler dans les 10-12 dernières années, et qui me montraient qu'une manière d'avancer, c'était pas juste de dire, bon, on utilise des intuitions à un moment donné, à tenter, mais c'est plutôt d'utiliser de manière répétée comme des façons de prototyper les changements possibles, des conséquences de prise de décision, et de se dire, mais si ça a lieu, alors qu'est-ce qui se passerait? Quelles seraient les lettres de plainte si on changeait telle fonctionnalité sur tel produit, quelles seraient les lettres de plainte des consommateurs? Qu'est-ce que serait que les publicités qu'il y aurait dans la rue à leur propos? Qu'est-ce que serait qu'une unboxing vidéo de quelqu'un qui ouvrirait le produit? Et ça, c'est pas la même chose que si, je sais pas, 7 ans avant, on travaillait sur les gestes que l'on pourrait faire hypothétiquement avec les produits dans lesquels il y a des capteurs de mouvement. Alors, donc, c'est ce que j'essaye de dire ici, c'est que on essaye sur le temps long, en fait, d'aller sur des problèmes beaucoup plus concrets, mais il a fallu faire les étapes antérieures auparavant.
Ouais, donc. Dans l'idée, il y a une première ouverture qui se fait de manière peut-être assez large ou assez inspiratoire, on va dire. De là, du coup, il y a de la matière. Avec l'entreprise, il y a la possibilité de venir infuser à l'intérieur de ce qu'ils font au niveau des métiers avec cette matière et ces inspirations-là. Donc, ça va venir modifier un peu les réflexions qu'il y a sur la manière de faire les produits, de faire les services, voire même peut-être faire émerger des nouvelles pistes. Et ensuite, après, ça va pouvoir rentrer vraiment dans la démarche de l'entreprise. Ce qui, du coup, quand on parle de faire des choses qui sont peut-être de l'ordre de basculer d'un produit à un service, de basculer sur un abonnement, de changer de modèle d'affaires, là, on commence à rentrer vraiment dans le cœur du business model. Ça doit remonter à la direction à ce moment-là. Et la direction, au final, les personnes qu'il faut remonter à la direction ont par tout ce cheminement tous les arguments pour exprimer pourquoi c'est important de pouvoir faire ça. Et après, c'est avec la direction qui va trancher s'il y a go ou no go.
En général, sans nous. Enfin, tout ça.
Ça se passe sans vous, exactement.
Avec aussi peut-être un autre type de demande qui arrive, c'est des organisations qui sentent qu'il faudrait internaliser en fait ces démarches de design fiction et qui nous sollicitent pour finalement les former ou les encadrer ou les coachés, en fait, Fabien peut-être parler d'un exemple de cet ordre-là, mais ça c'est aussi, c'est intéressant pour nous, c'est de voir comment le mode de raisonnement, par la pratique, c'est-à-dire prototyper pour imaginer ou imaginer en prototypant, en fait, ça peut être internalisé par les organisations, et puis donc les aider à faire ça, mais en fait, les meilleurs experts qui sont outillés en termes de connaissance métier, en termes de contexte, connaissance client, consommateur, c'est des organisations elles-mêmes. Donc, c'est bien aussi de les rendre indépendantes sur ce sujet, même si peut-être d'un point de vue business, on pourrait essayer d'être plus présent dans la continuité. Mais ça nous semble aussi fertile et intéressant pour en capacité, en fait, donner les capacités de réfléchir et d'imaginer aux organisations. De la même manière que j'ai pu faire des ateliers sur l'observation, comment on s'entraîne à observer, comment on prête attention au monde. Enfin, on se positionne aussi sur l'action des savoir-faire et comment on peut les outiller en capacité les gens avec lesquels on travaille.
C'est ce que j'allais dire. Dans tous les cas, le modèle de pensée design, le modèle de pensée et les skills d'un facilitateur, par exemple, et puis le modèle de pensée futur, c'est des choses qui sont à disposition de tous les humains. Et du coup, si jamais ces humains arrivent à s'en emparer, si c'est les humains qui sont dans les métiers directement les organisations, bah ça fluidifie tout le fonctionnement. J'en étais sur le sujet de la direction. Je vais te donner un exemple pourquoi je te parle de ça et j'appuie un peu là-dessus, parce que j'ai eu plusieurs cas où je travaillais aussi dans des services, plutôt du coup des services design ou innovation sur le sujet du design fiction aussi, pour faire un peu de projection. Avec la matière qui en sortait, quand ça remontait au board principal, il y avait des discussions justement sur « faut penser les évolutions d'entreprise » ou des feedbacks qui étaient même remontés, qui étaient « il semblerait qu'il y ait des dissonances avec la vision d'entreprise qu'on a posée ». Et donc, du coup, des dissonances en termes de modèle de pensée, parce que les équipes commençaient à avoir quelque chose qui était vraiment sur l'ordre de pensée future, donc du coup, de s'autoriser à penser des choses décalées, un peu folles, de changer de posture aussi les uns avec les autres, c'est-à-dire on n'était plus dans un espèce de débat, d'argumentaire, d'après telle étude, il va se passer ça, mais plus de « bon, ok, tout est possible, on voit ce qui nous touche, ce qui résonne avec nous et ce qui nous met en énergie aussi ». Et du coup, quand tu présentais ça à des directions qui étaient plus accompagnées avec d'autres méthodologies, plus de prospectives, d'argumentaires, de débats, d'études carrées, et du coup, une manière d'avoir posé la vision d'entreprise aussi qui est beaucoup plus conforme, on va dire, et bornée d'une certaine manière, il y avait cette dissonance-là qui se crée dans l'entreprise. Et donc, du coup, moi, ça m'avait frustré, parce que je me disais, on pourrait en fait arriver à infuser des modèles de pensée comme ça qui peuvent vraiment... permettre de libérer les collaborateurs et libérer les entreprises sur plein de sujets. Mais si ça n'arrive pas aussi au niveau de la direction générale, et que du coup, ça n'est pas à un moment donné utilisé pour être synthétisé dans une vision d'entreprise, même le processus de le faire, en fait, de créer la vision d'entreprise en passant par un travail d'imaginaire et de futur, on se retrouve à avoir toujours un blocage au niveau de la direction là-dessus. Donc voilà, c'était pour ça que je creuse un peu ce sujet. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses de ça.
Je dirais que là, tu mets le doigt sur un problème qui est plus large, enfin, qui est pas que lié à la question des addictions, c'est celui de la, comment on pourrait dire, comment on fait participer en fait les différentes composantes d'une organisation à des réflexions stratégiques. Et puis on voit bien que c'est un problème qui est récurrent, hein. On l'a vu, enfin, si on prend par exemple l'histoire des politiques de recherche et développement dans les 60 dernières années, il y a le fait d'avoir le modèle de R&D qui est complètement coupé du développement et de la production, qui a progressivement été mis de côté pour essayer de le rapprocher de la production, mais est revenu l'idée de l'innovation ou les structures de une espèce d'entité d'innovation dans les entreprises qui ont été finalement sorti des business units assez classiques. Donc ça un espèce de mouvement de va-et-vient qui va de ouais, il faut qu'on laisse des gens réfléchir aux produits de demain en termes de prospective ou en termes de R&D ou en termes d'innovation, ou là s'ils sont trop loin il faut les ramener dans la production. Et le problème, c'est quand ils sont trop loin, ils font leur truc dans leur coin et on sait pas comment remettre ça dans la production. Et s'ils sont trop près, ils sont trop dans la production, ils ont pas le temps de réfléchir à plus loin. Donc j'ai l'impression que tous les 5-10 ans il y a une espèce de mouvement comme ça de va-et-vient, et qu'on retrouve sur les enjeux, par exemple, de réflexion sur le futur, les ateliers prospectifs, de design fiction, dans lequel il y a, à un moment donné, il y a un moment comme ça, je dirais, depuis 5-6 ans, il faut faire participer, on est presque en train d'en revenir, je pense même, les gens, des différents business units, partout dans l'organisation, à réfléchir comment on pourrait être demain. Pendant le même temps, le board, il fait la même chose d'une manière plus informelle, où il y a des consultants qui sont payés pour le faire autrement. Puis en fait, après, ça fait un espèce de décalage, hein, peut-être que celui que tu décris, où on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce que tout ça doit être démocratisé de manière ou mis à plat, en fait, avec tout le monde, où il y a juste des gens qui réfléchissent. Et puis, on a parfois un peu l'impression de gaspillage de temps et d'énergie. Alors, ça dépend un peu des organisations, des cultures d'entreprise, dans lesquelles il y a une forme de confiance ou une forme de dimension plus collective qui est accordée à réfléchir à quoi que ce soit, hein. D'ailleurs, c'est pas que tourner vers le futur. ou d'autres, on cantonne ça en fait dans un certain nombre de gens, puis ça crée évidemment parfois des frustrations. Donc je, ouais, moi j'ai l'impression d'avoir connu ça, ouais, depuis que je travaille en fait, hein, en même temps, c'est un peu la vie des organisations, malheureusement, mais il y a quelque chose d'assez frustrant, parce que à un moment, quand on le vit en tant que structure qui est censée nourrir et aider une organisation, quand on voit les moyens qui sont mis sur la table pour qu'on produise certaines choses, parfois on se dit, mais pourquoi ça, comment c'est utilisé après? Pourquoi ce n'est pas suffisamment? Pourquoi il y a du budget pour produire la design fiction, mais pas plus pour ensuite, quand il s'agit d'animer des ateliers autour de cette design fiction, pour réfléchir aux conséquences, hein, de ce qui est mis en scène. Et en fait, ça a toujours lieu, mais ça a lieu beaucoup plus lentement que ce qu'on imagine. Et puis même après, 15, 16 ans à faire ça, ça me surprend toujours.
Et si on fait un tout petit peu d'imaginaire, est-ce que tu penses que les organisations vont évoluer par rapport à ça? Est-ce qu'il va y avoir plus de cohérence possible entre les différents travaux qui sont faits, plus de conscience justement sur ces ruptures desquelles on est en train de parler là, parce que c'est vrai que c'est très souvent, on constate très souvent, moi ça fait 12 ans que je vois ça quasiment tout le temps dans tous les types d'entreprises, quelle que soit la taille, et je trouve ça aussi frustrant parce que comme tu disais très bien, tu viens pour faire un job, tu vois que ça a commencé à faire bouger des choses, tu sais qu'avant il y en a d'autres qui ont fait un job ailleurs dans l'organisation, qui ont fait un petit peu bouger des trucs, et puis au final tout ça, ça arrive pas à se mapper pour pouvoir faire vraiment un système quoi qui est cohérent et qui fonctionne bien quoi.
Je suis pessimiste sur le court terme, un peu plus optimiste sur le long terme, c'est-à-dire pessimiste sur le court terme d'organisation qui à court terme, n'arrive pas en fait, et reste un peu perpétuellement dans ce genre de problème. Et un peu plus optimiste à long terme, où en fait, il y a des changements qui ont lieu, il y a des gens qui partent, des gens nouveaux qui arrivent, des nouvelles structures qui se créent. Et là, il y a des opportunités qui apparaissent. Mais globalement, je trouve qu'on est quand même dans un moment qui est un peu décourageant, notamment dans les... Enfin, qu'il s'agisse d'entreprises privées ou d'organisations publiques, où il y a quand même beaucoup de blocages et donc beaucoup de frustrations. Et je trouve que c'est pas toujours très épanouissant pour les équipes, avec l'impression que la porte de sortie, en fait, c'est souvent de retirer quelque chose ailleurs pour les gens qui n'arrivent pas, en fait, à sortir des problèmes qu'on décrit là. Et ça questionne. Enfin, une bureaucratisation des process, des problèmes de prise de risque du fait aussi. Enfin, ça, je ne vais pas produire une critique en disant ils sont bêtes, ils font pas les choses qu'ils doivent faire. C'est aussi qu'il y a quand même un contexte à la fois économique, politique, environnemental qui est extrêmement compliqué. Et quand on est une entreprise qui doit un certain nombre de devoirs, en fait, soit ses actionnaires, soit son conseil d'administration, c'est pas simple. Enfin, voilà, bureaucratisation des process, problèmes financiers, enfin ça crée ces points de blocage qui invite pas pour une organisation existante à évoluer, alors que de repartir, de remonter quelque chose, c'est souvent un peu plus évident ou aisé. Je trouve quand même qu'il y a quand même toute une intelligence et des savoir-faire qui se développent, avec aussi, malgré tout le contexte qui est parfois un peu plombant, une énergie quand même assez intéressante. Je vois sur les questions liées à la crise environnementale, il y a quand même plein de gens de bonne volonté qui développent à la fois des outils intellectuels, des manières de faire, des ateliers, des réflexions qui sont pas juste dans la négation et dire non, mais ça n'a plus d'avenir, on peut plus rien faire. C'est peut-être là où j'ai une forme d'espoir, on pourrait dire.
C'est l'une, en tout cas, des opportunités que je vois avec le design fiction ou d'autres types de travaux qui sont sur de l'ordre du rêve, du fantasme ou des imaginaires. Je constate, et je pense que toi, tu le constates aussi depuis longtemps, ne serait-ce que de faire travailler pendant une heure ou deux des personnes faire basculer sur cette pensée imaginaire ou pensée future, en leur disant qu'ils peuvent s'autoriser tout. Des fois, déjà, au tout début, c'est très difficile d'arriver à s'autoriser parce que, en fait, on t'a jamais dit que tu pouvais t'autoriser ça. Enfin, moi, j'ai eu des feedbacks comme ça assez souvent, de dire, oui, mais en fait, moi, je sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Et du coup, bah non, mais moi non plus. Et en fait, l'idée, c'est pas de savoir, c'est plutôt d'essayer de sentir ce qui ferait du bien. Et du coup, on va essayer de se projeter. Et je vais te donner de la matière ou des artefacts, comme tu le disais. Et en fait, en partant de ça, bah, vas-y, en fait, autorise-toi tout ce que tu aurais envie, que ça soit souhaitable, que ça te fasse du bien. Et même si ça te paraît impossible, si ton cerveau gauche y revient en disant c'est impossible, tu lui dis ok, si tu veux, mais on verra plus tard. Là, c'est pas le contexte. Là, on est dans une soft space où du coup, on a le droit de fantasmer sur ce qu'on a envie. Et rien que ça, je trouve que ça active quelque chose chez les humains, ça fait du bien. Et quand derrière ça, c'est partagé dans cette soft space, bah du coup, ça fait une résonance qui est vachement positive. Et donc du coup, je trouve que c'est ça l'opportunité des imaginaires et du futur, c'est que ça amène ça. Et pour transitionner sur un autre sujet que j'avais envie d'ouvrir avec toi, qui est lié à ça, quand j'étais avec Maven, donc du coup une autre personne qui est sur l'épisode 3, il me partageait une pensée de Bruno Latour où il disait si on continue à rester à penser sur une time frame de temps passé, présent, futur, c'est ça qui va nous bloquer en fait. On n'arrivera pas à faire changer les choses, à changer vraiment les modèles de pensée. Et du coup, il me parlait plus d'une version entonnoir comme ça, tu vois, avec le passé, présent et futur. Et c'était pour dire, en gros, si jamais on va dans le futur, on va pouvoir faire un travail, comme je l'ai décrit là, qui fait du bien et duquel on va pouvoir récupérer des ingrédients qu'on va pouvoir amener dans le présent. Mmh. Et bah, on va aussi aller dans le passé, plutôt que de dire le passé... Enfin, il y a que certaines personnes qui vont aller dans le passé, ils veulent revivre le passé ou des choses comme ça. Non, plutôt se dire, bah, dans le passé, il y a eu des choses qui nous ont amenés dans des situations qui sont pas agréables dans le présent, mais il y a aussi des choses qui étaient bonnes et qu'il faudrait reprendre, quoi. Un peu comme toi, justement, avec tes recherches en anthropologie ou tous ces sujets-là. On vient les reprendre et puis on va les mettre aussi dans le présent. Et du coup, bah, on fait cette popote-là et on peut arriver à avoir des choses qui sont intéressantes. Donc voilà, moi, c'était juste pour le côté optimiste que je peux essayer de porter aussi, de se dire, bah, de mettre de la place, enfin, de faire de la place pour le futur et pour la pensée future et les imaginaires, ça va mettre des ingrédients intéressants. Et il faut aussi, d'une certaine manière, faire de la place pour les sujets du passé. Pour pouvoir faire une popote qui est intéressante. Mmh. Ouais, ça me faisait penser à toi, parce que quand tu disais que tu étais entre le côté anthropologie, futur, académique et entreprise, ça me paraît être un tout qui pourrait être une sorte de recette intéressante, en tout cas pour n'importe quelle organisation, pour pouvoir bouger et changer, quoi.
Ouais, moi, je trouve que c'est ça qui est à la fois intéressant, voilà, à la fois d'un point de vue intellectuel, mais voilà, aussi à la fois en termes plutôt d'efficacité et de pertinence, mais aussi stimulant, c'est de se dire, si je prends la casquette plus anthropologique, c'est que l'anthropologie, ça décrit d'autres manières dont les êtres humains, avec le monde, vivent dans le passé ou dans le présent, dans d'autres cultures ou à d'autres époques. Du coup, on peut voir ça comme des choses qui nous ont mis dans la banane, qui nous ont mis des problèmes aujourd'hui, mais on peut aussi voir là derrière des formes de... Alors, ça peut être des formes d'inspiration, des formes de stimulation, des formes de provocation, en fait, qui à d'autres époques, il y a eu d'autres manières de s'organiser collectivement, socialement, qui a eu peut-être des objets technologiques qui pourraient être une forme d'inspiration. Je pense que tout le travail qui est fait autour du groupe Paléo Énergie, là, Cédric Carne et ses collègues, qui ont produit des ouvrages ou des prototypes sur comment on peut imaginer des inventions aujourd'hui à partir d'inventions passées qui sont de l'ordre de la sobriété énergétique, bah, c'est hyper intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est transposable tel quel, ça ne veut pas dire que, des manières dont réfléchissent les gens à l'autre bout du monde, dans d'autres cultures, c'est transposable. Ici, on peut devenir animiste du jour au lendemain, pas du tout. Mais par contre, ça nous oblige à voir que tout n'est pas écrit et gravé dans le marbre ici et qu'on peut peut-être penser autrement, effectuer des décalages. Et réfléchir en fait à ce qu'on gagne, selon ce qu'on perd, comment ces situations se modifient. Alors, quand on dit ça, c'est évidemment extrêmement, il y a un côté, c'est pour ça que je dis que c'est stimulant intellectuellement, mais c'est dur du point de vue de l'action, parce que de faire réfléchir à ce que c'est qu'une station de ski demain, quand il n'y a plus de neige, hein, comme le font, je sais pas, les gens comme Alexandre Bonin, Diego Landivar, Emmanuel Bonnet et leurs collègues. C'est très bien, mais c'est hyper dur et puis bloquant pour des organisations, parce qu'évidemment, à court terme, il y a peut-être à perdre. Mais, et là, on revient sur ce que tout à l'heure, hein, on disait, fait que c'est qu'il y a des changements qui sont quand même assez, enfin, on peut se boucher les yeux, mais en fait, ça va quand même se produire. Hein, la réfaction de certaines ressources, en premier bref, hein, on peut vouloir dire non, mais il faut toujours mettre des permis de construire. C'est un enjeu qui revient souvent en France aujourd'hui, dans des villages, mais il y a des endroits où simplement il n'y aura plus de place, où ça va être dangereux de faire construire. Donc il y a le fait d'être rattrapé par le réel. Et ma question, elle est moins sur tenir compte de ça que sur les conflits sociaux, politiques qui vont avoir lieu. Et c'est là où, pour revenir au design fiction, c'est là où c'est aussi intéressant, c'est de mettre l'accent sur les tensions, les controverses, les polarisations possibles, en fait, à travers certains changements qu'on met en scène avec les design fiction. Parce que je dis ça parce que souvent, dans les organisations, surtout les organisations privées, c'est pas des sujets dont on veut trop parler, en fait, parce que c'est pas des sujets très simples, c'est des considérations. Enfin, on cherche pas forcément à, on cherche plutôt à atténuer les tensions, mais dans les faits, elles vont quand même se produire, et puis elles vont avoir des conséquences, des retentissements sur le modèle d'affaires, par exemple. Et c'est là où, peut-être d'avoir un peu une prise de recul, de se situer dans un espace autre, qui est celui du futur, de montrer plusieurs scénarios qui montrent des trajectoires possibles différentes, ça permet, ça va pas tranquilliser forcément les gens, mais ça permet un peu de prendre du recul par rapport à des enjeux de l'hyper concret. Donc c'est pour ça que ces considérations d'aller voir dans le passé, d'aller voir aussi dans le présent, dans d'autres cultures, ça vient nourrir ces réflexions-là, en fait. Parce que, pour le dire autrement, notamment sur les questions de réchauffement ou de crise environnementale, enfin, nous, on se pose ces questions un peu avec un sentiment d'urgence, mais en fait, il y a des personnes qui vivent ça depuis des décennies et qui ont bien dû trouver en termes d'urgence des pistes, des trajectoires. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas non plus, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et là, c'est où il y a les inspirations du passé, c'est que pour réagir à certaines crises ou à certaines adaptations, il y a déjà des peuples qui ont su faire certaines choses. Donc hop, on y prend, on y remet dans le présent pour travailler avec. Et puis, comme tu disais, plutôt que d'aller mettre le doigt directement, là où ça fait mal dans une entreprise, avec un peu cette intention de « là, vous avez un déni juste ici, il faudrait quand même faire quelque chose », qui est du coup très attaquant et très agressif, le fait de dire « voilà, là, vous avez une bulle dans laquelle on va juste réfléchir à de la matière sur les futurs, on va pouvoir y injecter un petit peu des choses qui sont aussi des extrapolations du passé. Et si eux, dans le passé, ils avaient évolué dans le futur, à quoi ça ressemblerait dans le futur grâce à ces inspirations-là ? C'est très léger, d'une certaine manière. Ça va peut-être venir bouger des choses qui sont un peu plus lourdes, mais c'est jamais sur une intention de venir mettre un doigt comme ça, là où ça fait mal, quoi. Et du coup, il y a un potentiel vraiment à bouger les choses. Juste un point, parce que j'avais envie vraiment que tu nous en parles. Il y a le futur, il y a le passé, pour travailler sur le présent, mais du coup, le présent, c'est aussi, avant de faire tous ces travaux-là, un point de départ. Et du coup, ce point de départ, il faut être conscient de ce qui se passe dans le présent et il faut être en observation de ce présent pour pouvoir bien le voir. Et donc, ça, c'était pour faire la jointure directe avec pour que tu nous parles un peu du livre que tu as fait et de comment, du coup, ton livre ou les pensées que tu partages peuvent aider à être plus conscient, être plus présent, être plus au clair de ce qui se passe là maintenant, avant même de se dire on va regarder dans l'avenir ou quoi que ce soit.
Il y a plusieurs éléments pour aborder ça. Il y a un premier élément, c'est que on peut pas penser des futurs, imaginer des trajectoires, ça apparaît pas dans une bulle comme ça. Ex nihilo, quoi. Ça vient par rapport à une compréhension de l'état actuel des choses qui est lié à des trajectoires passées. Donc ça, c'est un premier point pour lequel observer le monde est important. Un deuxième point aussi, c'est que notre capacité à imaginer, à imaginer des changements, à imaginer les possibles, à les souhaiter, elle est aussi intrinsèquement liée à notre propre capacité à prendre conscience, en fait, de la diversité, la pluralité des mondes, des pratiques sociales, des technologies, de la façon dont on vit. Et donc, à remarquer, en fait, que y a toute un ensemble d'un répertoire de nuances dans la façon dont on utilise les technologies, qu'il y a d'autres gens qui sont pas comme nous, de la façon dont on vit dans le monde, de la façon dont on se déplace, dont on mange, dont on rêve. Donc, avant de, enfin, si on veut bien imaginer, pour le dire autrement, des trajectoires plus possibles, des mutations, des changements, des redirections, il faut prendre conscience, en fait, d'un espèce de répertoire de possibles. Et aussi identifier des problèmes, des enjeux, des opportunités, des crises. Et pour ça, il faut développer finalement une sensibilité, une perception, une forme d'attention au monde qui, suivant comment on a été éduqué, suivant comment on est, on l'a pas forcément. Hein. Et donc moi, je suis dans des contextes, j'ai une école d'ingénieur, école de design, enseignement en sciences sociales. Enfin, dans mon parcours, je suis passé à travers ces différentes sphères et école d'art. Et du coup, avec les étudiantes et les étudiants que j'ai en cours, à la fois on m'a demandé de faire ça, mais aussi j'ai senti le besoin d'approfondir ça, de développer tout un outillage ou une manière d'enseigner comment on prête attention au monde, comment on remarque toutes ces nuances, cette diversité, ces enjeux, ces problèmes, et à donner en fait des cours sur comment on apprend à observer le monde. Et ça, c'est ce que j'ai fait depuis une quinzaine d'années et qui m'a donné envie, dans le cadre du bouquin Exercice d'observation, qui est sorti l'année dernière chez Premier Parallèle, de concaténer, de résumer en fait dans un petit livre de poche en fait toutes ces démarches qui que je mets en place et qui sont pas du tout exhaustives, hein, ça c'est celle que moi j'utilise dans mes cours, mais qui sont une invitation à apprendre à remarquer et qui est souvent le préalable à quand on veut devenir designer et qu'on veut faire de user experience design, user experience research, quand on veut devenir sociologue ou anthropologue et qu'on veut faire des entretiens de l'observation, quand on veut devenir architecte ou ingénieur pour créer des choses. Il y a toutes sortes de métiers dans lesquels on prend pour acquis le fait que l'on sait observer. Mais il n'y a pas la brique précédente, en fait. Mais comment on apprend à développer cette sensibilité? Donc, c'est ça que j'essaie de faire dans mes cours, dans les formations que je donne. Et puis, de me dire, ces choses-là, ça peut s'apprendre par soi-même, pour autant qu'on soit stimulé à le faire, en fait. Et donc, ce que j'ai fait dans le petit livre, il y a presque un côté développement personnel. C'est un peu absurde comme ça, mais c'est tout un ensemble de petites consignes, de choses à faire qui paraissent, contrairement aux livres de développement personnel, qui paraissent un peu plus absurdes. Regardez un objet autour de vous et posez 25 questions. Imaginez 25 questions à travers ce que vous voyez. Écoutez des conversations dans les transports en commun. Voilà, plein de choses de cet ordre-là. Et à chaque fois, qui sont commentées par pourquoi c'est important de faire ça, comment des gens qui font ça s'en servent pour, créer, imaginer, penser des futurs, écrire des livres, la littérature, de la poésie, ou au contraire, imaginer un nouveau produit ou un nouveau service, avec des exemples de textes qui peuvent être intéressants et stimulants à lire en se disant « Ah, mais ouais, mais en fait, de faire ce truc qui a pas l'air d'être complètement débile, d'observer comment les gens gesticulent avec leur smartphone, en fait, ça, il y a des gens qui sont designers et qui font ça en permanence et qui ensuite s'en servent pour imaginer les jeux vidéo de demain, des nouvelles interfaces. Et du coup, je cherchais pas du tout à donner aux gens les outils pour être les meilleurs inventeurs demain, mais plutôt à leur faire développer une sensibilité en se disant « Ah mais oui, mais en faisant ça, ça pourrait m'aider à imaginer. » Et donc, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais « Mais en fait, les gens à qui tu t'adresses, ils se disent « Ah mais on peut faire ça en fait. » On pourrait faire ça. C'est juste ça, en fait. C'est-à-dire, fais des choses qui sont peut-être un peu absurdes à première vue, mais si tu le fais pendant de manière répétée, tu vas plus voir le monde de la même manière et ça va t'aider. Fais-moi confiance, ça va t'aider à imaginer demain. Et à comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait, c'est juste de compiler, en fait, moi, mon répertoire de choses qui m'ont stimulé, de petites consignes d'observation qui m'ont stimulé, que j'ai de côté depuis que je suis enfant, quoi. Il y a des choses qui viennent du manuel des Castor Junior et d'autres qui viennent de manuels d'anthropologie, les plus abscons et d'autres de textes qui viennent, d'un designer ou d'une artiste qui travaille sur, l'écoute de la nature. Et en fait, de mettre tout ça ensemble, ça donne Des idées sur comment on pourrait percevoir, remarquer, et c'est pas des choses qui s'appliquent directement, c'est plutôt du fait de développer une pratique, une sensibilité, et après, en ayant développé ça, on va voir certainement comment reconcevoir, je sais pas, une table, une chaise, une interface, ou imaginer des projets de design fiction.
Bah, moi, je le vois même dans le contexte, même dans le contexte plus global en fait du quotidien des humains. Bon, déjà il y a le côté réémerveiller un petit peu le quotidien,
oui.
Parce que du coup,
oui.
C'était
tout à fait.
Cet aspect-là, je le trouve ultra important. Et puis dans un contexte plus technique, on va dire du job, quand on a des commandes pour imaginer des futurs, ou quand on a des commandes pour n'importe quel autre type de projet. Pour arriver à exprimer correctement un besoin, en fait, ou définir correctement une problématique qu'il peut y avoir, faut être quand même très conscient du présent. Parce que sinon, on injecte à l'intérieur des biais, on va manquer de précision, parce qu'en fait, on a juste une impression ou une perception,
absolument,
ou une tension personnelle qu'on va définir de manière un peu grossière. Donc, en fait, on n'a pas creusé suffisamment. Et donc, du coup, derrière, potentiellement, le travail qui va être fait va être déceptif, parce qu'il va être trop survolant ou pas assez dans la précision. Et donc, ouais, la boîte à outils avec le modèle de pensée design, le modèle de pensée futur, un peu de facilitation, et puis ce que tu as tenté de concaténer dans ton livre, qui est de cette capacité à développer une sensibilité et une observation du présent, ça me paraît être une sacrée boîte à outils que n'importe quel humain peut prendre. Et puis, ça... J'imagine que tu dois traiter aussi, peut-être pas dans ton livre, mais en tout cas en lien avec cette conscience, cette sensibilité au présent, la notion du temps, en fait, la notion de l'attention qu'on met aux choses. Parce que tu vois, Fabien, dans le premier podcast, je lui demandais, toi, ce serait quoi ton futur souhaitable, ou qu'est-ce que tu voudrais voir dans un futur souhaitable. Il ne m'a pas donné beaucoup d'éléments, mais il m'en a donné un qui était que les gens et qu'on ait le temps de penser. Donc le temps de penser, et c'est vrai que dans le présent, se dire je vais prendre le temps d'observer ce pot de beurre de cacahuète qui est juste devant moi, et je vais me poser 25 questions par rapport à ça, c'est ultra ultra difficile et en même temps ultra précieux de le faire. Comment est-ce que toi tu arrives à approcher cette importance de développer cette sensibilité pour pouvoir travailler sur tout le reste, et en même temps, toujours ce sujet du temps et de l'attention limitée?
Ouais, je suis absolument d'accord avec Fabien sur cet aspect-là. Et puis de tout un écueil d'un monde dans lequel il y a un sentiment de manque de temps, d'accélération, qui est assez perturbant, parce que si on reprend les discours qu'il y avait sur les technologies au XXe siècle, il y a eu toujours l'idée que le plus on aurait de ces technologies, le plus ça nous permettrait de gagner du temps pour être plus détendu, plus tranquille, alors que l'histoire des techniques a montré que c'est plutôt le contraire, en fait. C'est le plus on a des techniques qui rendent les choses fluides et efficaces, le plus on en fait et le plus les gens sont stressés. Ça, c'est documenté par plein d'auteurs, hein, je pense à Judy Weshman, par exemple, ou Hartmut Rosa également. Et du coup, la question de le temps comme qui est vu comme un espèce de luxe, prendre le temps est un luxe, c'est à la fois le problème qu'on n'arrive pas à avoir, mais en même temps la solution, en fait, c'est de retrouver ces moments de tout simplement pas prendre son smartphone quand on doit attendre, et puis d'essayer de focaliser son attention sur quelque chose qui est en train de se passer. Se pousser, enfin il y a quasiment un paradoxe à se discipliner à prendre le temps, en fait, et ce qui est dur, parce que on a toutes sortes d'outils qui ne nous y incitent pas du tout, en fait, ou de pressions qui peuvent être tout autant professionnelles que familiales, personnelles, à rendre les choses efficaces. Mais finalement, on pourrait presque dire, et c'est un paradoxe complet, que pour être efficace, il faudrait être moins efficace, quoi. Moins rechercher l'efficacité temporelle, mais plus faire un nombre limité de choses, parce qu'on sait, enfin tout ça, on le sait aussi, d'un point de vue... cognitif, hein, je renvoie aux travaux de Lachaud, hein, par exemple, un neuropsychologue qui travaille sur ces questions, un neuroscientifique, pardon, qui travaille sur ces questions, sur les questions d'attention, que on peut pas partager son attention. Le multitasking, c'est quelque chose de complètement illusoire, et que c'est illusoire pour bien réaliser une tâche, et c'est aussi illusoire en termes de satisfaction personnelle. Donc, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Et ça, c'est un aspect, une ligne un peu indirecte qui est traitée, un axe qui est un peu indirect qui est traité dans le livre d'exercice d'observation. C'est aussi une manière d'essayer d'imaginer qu'est-ce que c'est que de retrouver, retrouver une forme de temps et d'attention pour remarquer des choses dans le monde. Alors, quand on le dit comme ça, il y a un côté un peu, c'est aussi un peu dans l'air du temps de lire ça. Mais on voit bien que c'est difficile parce qu'on est attiré par d'autres choses. Mais finalement, c'est certainement une voie de satisfaction personnelle, mais aussi professionnelle, de moins faire, de reprendre le temps ou dans le contexte des organisations, de créer des process, des manières de faire dans lesquelles on n'essaye pas de faire en sorte que les gens soient sans cesse surchargés. Et ça, c'est un peu le défi contemporain.
Ça me fait penser ce que tu as fait comme travail sur ton livre, un livre que j'ai lu il y a quelques temps qui s'appelle « La voie du sentier » de Louis Sanza. Et du coup, c'est un monsieur qui, justement, avait eu beaucoup de discours qui avaient été enregistrés, qui ont du coup été remis dans le livre, mais qui est vraiment sur ce sujet-là. C'est la voie du sentier, c'est de revenir sur les sensations et sur le fait de prendre le temps de toucher quelque chose de chaud et de voir en fait comment est-ce qu'on peut descendre dans le détail de ça ou de fermer les yeux et de sentir l'espace autour de soi, mais essayer de vraiment sentir l'écart qu'il y a entre les murs de la pièce et soi. Sentir à l'intérieur du corps, enfin toutes ces dimensions-là. Quand tu parles de développement personnel, tu vois, il y a quelque chose de ça aussi là-dedans. Et en même temps, moi, typiquement, ce type d'exercice, je pense que c'est un vrai prérequis pour pouvoir faire tous les autres travaux desquels on a parlé juste avant, et pour pouvoir même aussi derrière appliquer des grands changements pour réagir aux grandes urgences qui peuvent y avoir, que ça soit économico, écologico, tout ça. Avec mine de rien, des choses qui peuvent être très simples et quotidiennes, comme observer, écouter et prendre le temps sur des petits détails qui sont ultra précieux, quoi.
Et qui, peut-être pour compléter aussi, c'est de se dire qu'en fait, ça paraît peut-être un peu absurde et pas utilitaire, mais en fait, c'est intéressant. Ça peut devenir intéressant en tant que tel. Enfin, dans les exercices que je donne, il y a des choses complètement absurdes. Je sais pas, par exemple, vous choisissez une couleur aujourd'hui, puis vous prenez en photo, vous notez tous les objets de cette couleur. Enfin, ça paraît un peu absurde, mais le fait de faire ça, il y a un moment donné où dans la pratique professionnelle, ça peut ressortir de manière complètement, complètement imprévu. Donc finalement, en essayant de rechercher du curieux dans le quotidien, il y a aussi une forme d'utilité qui peut réapparaître après. Alors, et pas que dans les pratiques artistiques. Enfin, il suffit de lire des textes sur comment, je sais pas, des artisans, des gens qui peuvent être plombiers ou électriciens, décrivent comment ils regardent le monde et comment ils ont été forgés par d'autres regards dans leur enfance ou je sais pas, par leur formation, et de voir qu'en fait ça leur sert aussi, en fait, de la même manière que ça sert à des designers ou ça sert à des ingénieurs, mais qu'en fait il faut peut-être, c'est ça le raisonnement que je trouve important là derrière, c'est que parfois il faut pas chercher l'utilité dans le court terme, en fait, et c'est peut-être des détours, en fait, qui amènent à comprendre la complexité, les nuances du monde, qui font que après, quand on doit imaginer ou trouver une réponse à un problème ou imaginer une trajectoire, en fait, il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit auxquelles on n'aurait pas pensé autrement. Et ça, c'est dur quand on est dans une organisation qui cherche l'efficacité, parce que il n'y a pas d'indicateur de réussite, il n'y a pas de processus où on est sûr du résultat. Mais en fait, on voit bien que il suffit de lire aussi les textes, par exemple, de, j'aime bien ce Gunpei Yokoi, qui était je sais même pas si on dirait designer ou ingénieur, qui travaillait chez Nintendo, qui a créé la Game Boy, qui a créé les premières manettes. Quand on lit des textes de ces gens-là, qui expliquent comment ils y raisonnaient, comment ils ont imaginé des produits qui ont été révolutionnaires, en fait, c'est juste des gens qui ont observé d'autres gens, en fait, ou des objets, et puis qui en ont tiré quelque chose, mais parfois longtemps après. Et je sais pas, de voir comment Gutenberg a imaginé l'imprimerie en regardant des gens qui marchaient sur du raisin, en disant, ah ouais, tiens, en fait, on emprunte deux pas après un marché sur du raisin pour faire pareil avec des caractères qui seraient métalliques, il y a quelque chose, et il a pas pensé ça tout de suite, c'est des raisonnements analogiques, analogues à de transposer d'un domaine à un autre, qui peuvent servir. Mais quand il observait des gens qui marchaient dans le raisin, il s'est pas dit je vais inventer l'imprimé. Mmh. Peut-être qu'il y a plein de gens qui ont observé ça et qui n'ont pas fait autre chose. Mais c'est cette caractéristique. Le type qui a inventé le nylon, hein, un Suisse qui a inventé les scratch, en fait, il observait dans la nature des plantes, en fait, qui s'agrippaient. Il s'est dit, bon, on pourrait créer sur le même principe des choses qui seraient finalement biomimétiques. Donc mon message, c'est que ça sert d'apprendre à observer, mais ça peut-être pas tout de suite, mais ça fait partie d'une espèce de bagage de choses qu'on a en tête et qu'on peut mobiliser par moment, suivant les situations dans lesquelles on est.
Ce que tu disais par analogie, la pensée analogique aussi, c'est un autre truc que je rajouterais dans la boîte, oui. qui est vachement utile et qui, en plus de ça, a un côté très ludique et agréable quand c'est pratiqué souvent, parce qu'en effet, dans le moindre truc que tu peux observer, tu peux en tirer des analogies justement et des utilités pour d'autres choses qui sont dans un autre contexte. Moi, je sais que par exemple à l'escalade, j'ai tiré énormément de choses sur comment est-ce que je peux améliorer ma pratique quand j'accompagne des groupes de travail. Parce qu'il y a plein de trucs à tirer. La manière dont, quand tu vas aller têter en vacances, tu vas regarder comment se déplacent des crabes dans le sable, comment se gèrent les fourmis dans la fourmilière. Enfin bref, tu as toujours des choses à en tirer qui sont vachement intéressantes. J'avais une dernière ouverture, vu qu'on arrive quand même à la fin. Est-ce que toi, là, t'as un projet actuellement ou un sujet qui te tient vraiment à cœur et que tu aurais envie de partager sur cet épisode?
Ouais, alors j'ai peut-être parlé d'un projet lié aux Alpes, en fait, que je mène depuis quelques années, parce que la plupart des projets que j'ai faits jusqu'aux années 2015 étaient liés quand même à des enjeux très technologiques, urbains. Et à partir de cette époque, je me suis dit, ce serait intéressant de décaler un peu le regard. Et puis, comme je vis proche des montagnes et que j'y passe beaucoup de temps, je vais mener une enquête sur les mutations des Alpes, au sens large, France, Suisse, Italie, Slovénie, Autriche, sud de l'Allemagne, en considérant comment les gens qui vivent dans des espaces un peu moins standards que ceux des villes, dans les montagnes, vivent avec, se relient avec la crise environnementale. Et ça a donné lieu à un livre qui a un récit documentaire, récit ethnographique, qui s'appelle « Fragments d'une montagne », et qui est une espèce une série d'observations pendant 7 ans sur les changements dans ce genre de territoire, avec des changements technologiques, des changements de dégradation de l'environnement, des changements dans les manières de s'organiser, des nouveaux rituels, des nouvelles manières de se protéger de changements. Et la seconde phase du projet, parce que c'est souvent des projets hors de phase, là c'est la dimension, on pourrait dire, ethnographique, descriptive. La seconde phase du projet que je mène à la Haute École d'Art et Design à Genève, avec Étienne Mineur, qui est designer, et puis Sabrina Calvo, qui est autrice de science-fiction. Elle fait du world building dans le monde du jeu vidéo, elle est d'ailleurs basée à Lyon. On a créé le prolongement de l'enquête sur les Alpes, en focalisant sur Chamonix, on a créé un manuel de jeu de rôle de table, bon vieux manuel de jeu de rôle, ça s'appelle Chamonix Sentinelle, et qui est pas vraiment une design fiction, qui est plutôt un jeu dans lequel on fait jouer à des scénarios possibles dans le contexte de la vallée de Chamonix, pour non pas rendre attentif aux gens qui a un réchauffement climatique, mais plutôt de les faire réfléchir et les faire jouer en fait des personnages à travers des changements qui auront lieu d'ici 10, 20, 30, 50 ans, pour les faire réfléchir à qu'est-ce que c'est que de s'organiser, qu'est-ce que c'est que de s'adapter, qu'est-ce que c'est que de bifurquer dans un contexte alpin. Et donc, c'est une sorte de design fiction participative, d'une certaine manière, à travers les mécaniques ludiques, les mécaniques du jeu, en n'étant pas, nous, dans le contexte de dire, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, mais plutôt de donner des briques de changement possibles et le maître ou maîtresse de jeu anime des parties pour faire raconter, en fait, ces trajectoires, ces futurs possibles aux gens qui jouent, avec un peu d'ingrédients type fantastique. On peut se transformer à tout moment en créature, en animal, en ruisseau, en poteau de télésiège. Et évidemment, du coup, notre capacité d'action, elle est limitée. Donc, il y a un côté amusant, mais aussi un changement de point de vue. Il y a un côté, évidemment, aussi mise en scène de controverses, de tensions, de ce qui pourrait se produire. Et puis de retrouver à travers les manières de faire du jeu de rôle, qui sont en fait de donner des rôles à chacun, à chacune, et puis de se faire raconter par l'improvisation, c'est un petit théâtre d'improvisation, de mettre les gens en situation d'imaginer des changements et de les raconter ensemble de manière légère, parce que c'est tout ça est une forme de divertissement, c'est un jeu d'aventure. Donc voilà, ça c'est un travail là, qui le livre Chamonix, enfin le manuel de jeu hein, qui permet de jouer, faire des parties, va sortir avant Noël hein, en cours de finalisation. Okay, et c'est ouais, il y a un côté aussi assez intéressant par rapport à ce qu'on discutait sur design fiction, de se dire mais en fait il y a toute une boîte à outils de moyens d'imaginer demain. Et design fiction c'en est un, le jeu dont je parle ici c'est autre chose, bon, c'est un peu proche du design fiction mais c'est quand même plus participatif. Et du coup, bah, c'est de travailler sur si je devais résumer, sur de l'observation du passé et du présent à imaginer des objets fictifs qui peuvent être des intuitions, des jeux, des moyens d'aider à imaginer, en fait, tout simplement. Donc, c'est ce genre de choses qui me préoccupent ces derniers mois. Et puis, voilà, d'écrire aussi sur pourquoi on fait ça. J'ai juste fait un article récemment dans une revue, qui s'appelle Terrain, une revue d'anthropologie qui a fait un numéro spécial sur les futurs. C'est une revue qui est très accessible et en plus tout est partagé en ligne gratuitement, hein, le petit contenu. Donc j'explique en fait ce jeu en fait, hein, Chamonix Sentinelle et les futurs alpins. Le manuel de jeu, la version papier, elle sera payante, mais la version PDF, elle sera mise en ligne gratuitement sur un site. Donc il y a tout ce travail d'essayer de créer des outils et les mettre à disposition. Alors parfois de manière gratuite, parfois quand on publie des livres, il faut quand même payer un peu l'impression, mais de travailler sur les savoir-faire en fait. Qu'est-ce que c'est que d'observer et qu'est-ce que c'est que d'imaginer. Voilà, si je devais résumer, c'est ça qui m'intéresse.
Super, trop bien. Et ben écoute, je partagerai tous les liens de tes articles et puis de ces ressources pour les personnes qui écoutent le podcast et qui ont envie d'aller plus loin. Je te remercie vraiment de cet échange, c'était très riche et très agréable. J'espère que tu as passé un bon moment aussi.
Ouais, merci de l'accueil.
Et puis écoute, on se dit à bientôt.
Ouais. Merci beaucoup, à bientôt.